Je vais faire de la sociocritique, mais soft, si je puis dire. Je ne suis pas ici, je crois, pour faire un saut de théorie. Donc, c'est simplement l'esprit de cette perspective-là que je vais garder, parce que, ma foi, j'en ai un peu l'habitude et c'est là-dedans que je me sens bien. Donc, il va s'agir pour moi de relier des mises en texte, des mises en forme de littéraires à la sémiosis sociale, comme on dit chez nous, c'est-à-dire à la façon dont une société se représente ce qu'elle est, ce qu'elle a été et ce qu'elle espère devenir. Et donc il s'agit d'essayer de trouver une sorte d'ouverture entre l'analyse interne des textes et, disons, l'espace démocratique de la parole publique, en essayant de voir comment la littérature finalement participe de ce qui se dit dans un état de société, tout en gardant sa spécificité, tout en gardant son indépendance critique. Alors, je vais faire ça à partir d'une thématique qui est effectivement la représentation de Paris dans la littérature contemporaine, en remontant cependant, en étendant au moins le contemporain jusqu'à la fin des années 1970, puisque le premier poète dont je parlerai est Jacques Reda, qui publie en 1977 Les ruines de Paris, qui est un recueil, je trouve, très important dans l'histoire, non seulement de la poésie sur Paris, mais dans l'histoire de la prose poétique, notamment, à la fin du XXe siècle. Et Reda va me servir de premier marchepied afin de ensuite parler de trois autres recueils, de trois autres auteurs, qui seront dans l'ordre Jacques Roubaud, Michel Houellebecq et Étienne Faure, qui ont tous trois donc travaillé aussi la représentation de la ville de Paris. Donc, je commence tout de suite par Reda. Les ruines de Paris donc sont de 77. Et lors de la publication de ce recueil chez Gallimard à l'époque, le recueil va être présenté comme le recueil d'un promeneur qui a un esprit et un cœur changeant, qui est tour à tour inquiet, curieux, colérique, furibond même parfois, souvent ahuri, mais un promeneur qui ressemble finalement un peu au flâneur baudelairien, c'est un peu le remake de cette figure-là, un promeneur qui se balade, dit-on, à travers les arrondissements et les banlieues de Paris, mais des arrondissements et des banlieues qui éclatent, je cite la quatrième de couverture, qui éclatent, agonisent ou résistent encore sur leurs secrets. Formulation un peu intrigante de la part d'un éditeur, mais il y a là l'idée donc d'un éclatement, d'une agonie, d'une résistance. Autrement dit, il y a une ville qui est en train de changer profondément. C'est un moment où la ville de Paris connaît une première phase de gentrification très très forte, notamment sur les bords de la Seine, avec des grands chantiers, comme le plus célèbre peut-être pour des littéraires comme vous et moi, le chantier de la Bibliothèque nationale de France, hein, forcément, qui a tout à fait reconfiguré le bas du 13e arrondissement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc il y a là beaucoup de bouleversements architecturaux et urbanistiques qui font donc qu'il y a ce constat d'un éclatement, d'une agonie, d'une série de tensions, disons, en ville. Or, sous leur sérénité et leur méticulosité, si vous avez déjà lu Reda, vous savez que c'est un auteur très soucieux du moindre détail formel. Sous cela, les poèmes en prose de Reda sont cependant habités, à mes yeux, par une tension créatrice qui les détache des façons convenues de raconter, de voir ou de dire la capitale française. Ce que fait Reda d'abord, c'est établir une sorte de continuité phénoménologique, carrément comme s'il s'agissait vraiment d'une expérience qui, dans les trois domaines, a finalement le même axe. Donc, entre trois expériences qui sont vivre, tout simplement, écrire et marcher. Comme s'il y avait entre ces trois choses-là quelque chose de commun qui permet d'établir une continuité permanente entre la marche en ville, me vivre au jour le jour, et l'écriture page après page. C'est donc comme si chacune des actions posées dans ces trois domaines était l'une des composantes d'un même art global. Cet art-là, chez Reda, je le définirais comme ceci. C'est l'art d'essayer de maintenir une espérance, de continuer à espérer aussi bien du côté de l'émancipation individuelle que de l'émancipation collective, continuer à espérer dans un espace urbain où le devenir en ruine, d'un seul mot on appelle ça le devenir rudéral est un adjectif qui signifie devenir ruine, où le devenir rudéral donc est de plus en plus rapide et s'étend désormais à tout et à tous. Ce qui se passe, c'est que le temps urbain, désormais, a épousé le temps de la consommation. C'est la grosse affaire de l'époque pour la France, qui est d'ailleurs un peu en retard par rapport à bien d'autres pays. C'est l'émergence et l'arrivée, avec vraiment une très grande force, l'émergence et l'arrivée de la société de consommation. À l'époque, d'ailleurs, où Baudrillard va sortir son livre sur la question. Alors, comment cela se passe-t-il chez Reda dans sa représentation poétique de la ville? Mais disons que chez lui, détacher la ville des trajets et des usages de Paris qui sont imposés par cette consommation ou par le pouvoir urbain. Mais détacher cette ville de ses trajets imposés, de ses usages imposés, ça demande chez lui une mise en mouvement de soi dans le texte urbain. C'est-à-dire que si marcher, c'est écrire, c'est entre autres parce que marcher, c'est d'abord lire. Et la marche de Reda dans ce texte va toujours être une lecture première du texte de la ville, de tout ce que le texte, tout ce que Paris peut offrir comme texte ou même comme représentation picturale ou architecturale dans ses murs mêmes. Et lire d'abord, évidemment, donc c'est la ville-texte, mais lire, c'est aussi lire une sorte de magma au milieu duquel le poète va voyager et faire d'abord une œuvre de sélection. Remarquez bien qu'il ne s'agit jamais chez Reda, dans ses poèmes, de chercher ce détachement par rapport aux formes imposées de connaissance de la ville, en imaginant par exemple un trajet inouï, un trajet inédit. Les textes insistent donc plusieurs fois là-dessus pour dire non, c'est pas ça qui est en jeu. Essayer de trouver un trajet comme ça inouï ou totalement, imperçu par les gens. D'une part, ce serait illusion. D'autre part, ça ne servirait à rien. Et pire que cela, ça reconduirait en fait les naïvetés que l'on vend aux touristes. Hein, les touristes qui sont des consommateurs de la société de consommation au niveau de l'espace. Touristes auxquels il n'y a rien de plus facile que de vendre une sorte de vague secret présenté comme authentique, mais qui n'a d'authentique que l'illusion qu'il produit. Donc, genre de secret du type, ici a eu lieu un élément, par exemple, un moment de la vie de Victor Hugo, une anecdote sur Victor Hugo dont jamais personne n'a entendu parler. Bien là, vous avez une ruelle qui est inconnue de tout le monde, vraiment personne n'a jamais, même sur les cartes de Paris, les plus anciennes, vous ne verriez pas ça. Ou bien ce petit resto-là, personne n'y va jamais, et donc, etc. Vous voyez bien le type de raisonnement. Chez Reda, au contraire, il s'agit de prendre des trajets normaux, si je puis dire, de se laisser aussi aller parfois au hasard, mais d'aller chercher la nouveauté dans l'habitude même. C'est-à-dire que c'est en regardant chaque jour différemment le même trajet qu'on fait tous les jours qu'il est possible de trouver une sorte de détachement, d'écart par rapport aux clichés et aux lieux communs. Et donc l'étonnement ici va prendre naissance toujours dans l'espace le plus connu. Cela dit, je dis bien, Reda aussi, enfin le personnage rédien, le marcheur rédien, celui qui était en texte, quand je dis Reda, c'est par métonymie, hein, je parle du jeu qui est dans les poèmes. Donc le sujet des poèmes va se laisser porter vers des endroits, vers des objets, au gré donc des itinéraires qu'il connaît bien, mais en acceptant donc éventuellement la nouveauté. Ce n'est pas où il va qui compte. Non, ce n'est pas le but du trajet qui compte, c'est comment il y va et avec quel esprit il y va, c'est cela qui compte. Cette disposition d'esprit chez lui implique une disponibilité sensorielle et culturelle, au mieux culturaliste. C'est-à-dire qu'il va toujours être capable de connecter ce qu'il voit, ce qu'il lit, à de la littérature, à de la peinture, à de la musique, avec une sorte de jubilation. C'est par là donc qu'il va procéder à une recréation de l'espace urbain. Si cette disponibilité poétique est le moyen, comme je viens de le dire, de créer un détachement par rapport aux formes imposées de connaissance de la ville, elle assigne aussi au poème un devoir particulier, celui de respecter ce qu'on appellerait en épistémologie une logique de la découverte, c'est-à-dire non pas une logique de la preuve. Une logique de la preuve, c'est une logique de vérification. Vous avez une hypothèse, vous allez faire en sorte de prendre les moyens pour la vérifier, et vous allez satisfaire finalement votre intention première. Donc une logique de la preuve, ce serait ceci, je prends le métro, place d'Italie, ligne 7 vers la Courneuve, au 7e arrêt, je sais que je serai à Pont-Marie, À Pont-Marie, je serai à 200 mètres de la bibliothèque historique de la ville de Paris où je vais travailler. J'y vais, je vérifie, la bibliothèque est toujours là. Et donc, voilà, je suis rassuré, j'ai mon itinéraire. La logique de la découverte, c'est autre chose. Il ne faut pas avoir, a priori, donc, d'intention absolue, il ne faut pas avoir de présupposés et d'hypothèses de ce qu'on va trouver, même si on aborde un chemin qu'on connaît déjà. Alors, ce que va chercher donc Reda dans ses chemins habituels, je l'ai dit déjà une fois, je redis un peu autrement, je disais il y a quelques minutes, c'est une façon de s'étonner au milieu de l'habitude, de trouver l'inattendu dans l'habitude, mais c'est aussi une façon d'essayer d'être attentif à ce qui peut susciter l'événement. Je dirais, moi, que les ruines de Reda sont en fait une série de choses qui sont en train de disparaître, mais qui sont à chaque fois sauvées par un minuscule événement que, justement, le regard attentif qu'il porte sur la ville lui permet de reconnaître. Alors, je vous invite à lire le premier extrait d'un des textes. Les textes de Reda sont assez longs. Et celui-là, ce texte que j'ai choisi, qui s'intitule « On ne sait quoi d'introuvable », est à mon avis l'un des plus grands textes de ce recueil. Il fait 3-4 pages. Je n'ai donc mis ici que, sur la première page, c'est la colonne de gauche, je n'ai mis que le début du texte et sa fin. Dimanche matin, comme tant d'autres qui sont peintres, je deviens le poète du dimanche. Seul jour où l'on puisse travailler tranquille sur le motif. Le motif, en fait, c'est la ville elle-même et c'est ce qu'il a rapporté comme expérience de la ville la veille. Car le samedi, on est happé, ahuri par les foules, accumulant des provisions pour l'éternel lendemain. Toutes sortes de belles et bonnes choses indispensables dont liste suit. Alors, là donc, le dimanche, il est le poète du dimanche. Le samedi, ce qu'il identifie là, c'est en fait le rituel de la société consumériste. La société de consommation française à l'époque fait que le samedi, c'est là que tout le monde va faire ses courses. Et donc, lui a fait la même chose, il ne se distingue pas, il est bien au milieu du peuple parisien, ce n'est pas un poète distant de la masse, pas du tout, il a fait exactement la même chose, mais dans un tout autre esprit que ce que la société de consommation demande. Et on va découvrir ce tout autre esprit en regardant justement les achats qu'il a faits. Remarquez aussi l'expression « l'éternel lendemain » qui désigne de façon critique justement l'un des mécanismes de la société de consommation. C'est-à-dire que c'est une société qui vous oblige à tout le temps faire un achat pour sortir du présent. Et donc, en fait, vous ne vivez jamais dans l'instant où vous êtes. La société de consommation fait qu'en fait, vous achetez quelque chose pour avoir du plaisir après. Vous êtes toujours donc l'homme ou la femme du projet, vous êtes toujours non dans le présent à vivre, mais dans le lendemain à rêver. Donc, évidemment, le lendemain, vous êtes tenu de recommencer pour la semaine suivante, de recommencer pour renouveler le lendemain. C'est ça que s'appelle l'éternel lendemain. Alors, voici la première des dix haltes que Reda fait dans son trajet. Je n'ai reproduit que celle-là. Vous allez voir comment ça marche. Premièrement, rue de la Banque. 6 bouteilles de rouge ordinaire. Et ce n'est pas sans raison que, depuis des années, je vais souvent prendre mon ordinaire si loin de chez moi. Il y a là, en effet, derrière un rempart de moutarde et de grandes tours de bonbons en vrac, un homme d'une culture insondable, d'un goût très sûr, d'une douceur et d'une probité vraiment évangéliques. Ici-bas, parmi nous, la triple réincarnation en un seul être émacié à fines moustaches de Thomas d'Aquin, François de Sales et François d'Assise, pour le pinard. À haute voix rêveuse, il médite, suggère, disserte, pénétrant tous les repris de votre âme de buveur qu'il illumine de sa miséricorde et de son savoir. Cependant, comme je renacle toujours à trimballer mes bouteilles vides, je paye le supplément pour la consigne d'un cœur limpide, évangéliquement, 19 francs 20. Autrement dit, à peu près 3 euros pour 6 bouteilles de pinard. Vous voyez que c'est bon marché. Bon. Alors, le texte est soigneusement écrit comme vous le voyez. J'ai déjà dit qu'il opère dès son début une critique du rituel de la société consumériste, à savoir les courses obligatoires le matin. Mais ce qu'il va chercher, d'une part, vous voyez que ce sont des choses très simples, le gros rouge ordinaire, d'une part, et l'achat se fait à un endroit où justement il y a un événement qui permet l'inattendu, c'est-à-dire qu'il y a là une espèce de presque de saint ou de mage, hein, le mot évangélique revient deux fois, donc il y a quelque chose qui disons cristallise d'étincelle cette figure du marchand qui ressemble à un vieux socratique en train de parler et de vanter les mérites du vin. Et donc à chaque fois, évidemment, le verbe du marchand peut changer et peut créer, donc peut faire événement. Or, ce genre de mécanisme-là, donc chercher à la fois des choses ordinaires, des produits extrêmement précis et qui n'ont pas vraiment donc un prix faramineux par rapport à la société de consommation qui pousse toujours donc à la consommation justement. Et ce qu'il va chercher, oui, finalement, c'est une sorte d'absolu. C'est pas l'absolu que cherchait le poète romantique, ce que vous avez ici, c'est un absolu matérialiste et épicurien. Ce qui domine ici dans l'achat, c'est d'une part le plaisir qu'il a, et deuxièmement, la capacité de rencontrer la culture en ce monsieur qui est là, et qui ressemble donc à ces trois théologiens majeurs qui étaient Thomas d'Aquin, François d'Assise et François de Sales. Les itinéraires et achats à travers Paris vont se multiplier. Donc, rue de la Banque, vous avez 6 bouteilles de rouge ordinaire. Évidemment, rue de la Banque, vous voyez aussi le contraste entre le rouge et la Banque. Rue Saint-Honoré, il va acheter 3 paquets de Leduc. Les Leduc sont des cigarettes très particulières. Elles étaient faites en Belgique. J'en ai fumé quand j'étais jeune. Ça arrachait la gueule de façon majeure. Donc, c'est vraiment un goût très, très particulier. Et trouver des Leduc, ça demande vraiment beaucoup de recherche parce que c'est une toute petite entreprise qui fait très très peu de cigarettes, donc c'est un machin pour disons pour intoxiquer majeur. Ensuite, quai Voltaire, il va aller chercher 3 crayons d'une sorte particulière. Rue du Bac, 3 cahiers écoliers. Boulevard Raspail, encore un exemplaire, c'est-à-dire une librairie où il va acheter des recueils de poésie qu'il a déjà, le but étant non pas de les lire ni de les revendre, mais de les donner à des amis. C'est pour ça qu'il en achète plusieurs. Quand les amis viennent, il fait un peu l'innocent et il dit « Ah ben tiens, j'en ai 2 ou j'en ai 3, tiens, voilà. » Donc il y a cette volonté comme ça de diffuser la poésie par des moyens personnels. Rue de Grenelle, il va acheter à la fois de la poésie et des fromages choisis. Rue du Vieux Colombier, un tambour de chasseur à pied pour faire de la musique, mais c'est totalement inutile, un tambour de chasseur à pied, hein. Ce que vous allez faire avec ça en plein Paris. Rue de Rennes, un disque de Bud Powell, toujours le jazz chez Reda, et sa poésie d'ailleurs essaye d'imiter le rythme du jazz très souvent, avec des improvisations à certains moments. Rue Saint-Placide, une partition pour flûte d'un musicien obscur du XVIIe siècle. Et rue de Sèvres, il y va parce qu'il a besoin de mettre quelques gouttes d'essence dans son espèce de petite Vespa, son Solex, je crois, comme on disait à l'époque, qui est un petit vélomoteur. Donc, qu'est-ce qu'il recherche là-dedans? Quels sont les objets recherchés? L'art, de la poésie, de la musique, des choses pour pratiquer l'écriture, des cahiers, des crayons, et enfin, tout ce qui est suffisant pour survivre et pour le plaisir de vivre, du vin, du fromage et du tabac. C'est à ça que se limite la chose, et c'est donc une attitude extrêmement épicurienne à mes yeux. L'autre extrait à la fin du texte, et lui, vraiment très intéressant aussi, il donne d'ailleurs une image synthétique de l'espace et du temps à la fin qui est intéressante. Donc je lis ça. De l'autre côté du boulevard que je traverse, donc il est avec son petit vélomoteur, voici une large avenue avec des petites rampes de gros pavés. Elle m'appelle si tendrement dans son virage en pente, j'y vais. Remarquez bien ici que nous sommes bien dans une écriture sur la ville. La ville, ce n'est pas un décor, chérie dame. C'est une ville qui est actante, qui est agissante. Donc c'est l'avenue qui appelle si tendrement dans son virage en pente. J'y vais. J'aperçois d'abord un monsieur avec 2 petites filles qui cherchent on ne sait quoi d'introuvable dans l'herbe sans secret des bas-côtés. Puis 3-4 voitures que je croise me font connaître à furieux jets de phare que je circule en sens interdit. L'image vaut évidemment à la fois pour sa poésie, il est en sens contraire ou en sens interdit par rapport à la loi dominante. Donc il circule en sens interdit, c'est là qu'il va rencontrer, disons, la violence aussi du désordre, la violence de la façon de vivre coutumière. « Roulez, je leur crie, d'anathème, roulez, empuantissez l'air et bloquez les périphériques. Vous n'empêcherez pas le vent qui sent déjà la neige et le poil de goût de souffler, ni la lune à moitié déjà sourde, mais très lucide. » De courir au-devant de cette orgie de vengeance céleste sur Meudon et Saint-Cloud. Encore quelques mètres, je m'arrête, j'entre à travers des planches dans un chantier. On est bien dans le Paris des années 70, toute la ville est transformée en chantier à peu de choses près. Énorme excavation avec une mer morte d'émeraude et de violette et une monstrueuse montagne de gravats par-dessus. Au sommet, je m'y enfonce jusqu'à la cuisse. Si tout croulait, quand et dans quel état me retrouverait-on parmi l'amas de plâtre et de poutres? J'ai peur, je n'ose pas trop bouger. Enfin, je dégage doucement ma jambe, je tâtonne tout autour, solide, et je perçois vers le bas le ferraillement rassurant d'un train. La ligne de Versailles, salut brave Jean, salut à grands coups de ma casquette, mais personne ne répond. Chacun retourne dans sa banlieue, encombré comme moi hébété de paquets. Sommes-nous donc tous à ce point semblables en solitude? Tant de grossière frénésie, si peu d'amour, rien que ce renfrognement qui présage la misère du dimanche au fond de nos cœurs, peu à peu le silence, la charitable obscurité, tel un barbare déçu, je demeure accroupi sur mon tertre, adossé aux ruines de Paris. Alors, très beau texte se trouve, il entre donc dans ce chantier. Alors, ce qu'il y a d'intéressant ici, entre autres, à mes yeux, en tout cas sur ce quoi je vais insister, c'est la figure du barbare déçu. Hein, le barbare déçu, le barbare, rappelez-vous, à l'origine, dans l'Antiquité, c'est l'étranger. C'est celui que les Grecs ne veulent pas, celui que les chrétiens aussi ne veulent pas parmi eux. Donc c'est l'étranger à la croyance générale, l'étranger à l'ordre nouveau qui s'est imposé à la ville de Paris. Ce barbare déçu est au milieu de déchets, hein, et il y a même des émeraudes et une violette. Et des violettes, les émeraudes, j'imagine, ce sont les rocs qu'on a cassés et qui prennent une couleur bleue sous la violence de la coupure par mes outils. Et on est ici dans une sorte de remake de la figure du chiffonnier baudrérien. Hein, si vous avez déjà lu les travaux de Benjamin sur Baudrère, vous savez que Benjamin va aller repérer une figure importante chez Baudrère qui est le chiffonnier moderne étant celui qui, dans la ville de Paris, circule en ville, ramasse des déchets de vêtements essentiellement, et avec ça, va pouvoir revendre ces déchets pour que quelqu'un refasse des vêtements complets à partir de ces haillons que le chiffonnier a ramassés. Et le chiffonnier baudrérien est évidemment l'analogone, hein, le personnage analogue du poète qui, lui, prend des haillons de langage dans la ville et recompose un poème avec cela. Ici, on a, disons, grosso modo une reprise, mais une reprise tout à fait, disons, déceptive, puisque si Reda fait bien, effectivement, un recueil avec des ruines et avec tout ce qu'il y a autour de lui, y compris avec ce qu'il y a ici dans ce chantier, la fin du texte dit bien, enfin le texte dit bien d'un barbare déçu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, apparemment, il n'y a pas de possibilité de donner la nouveauté, de communiquer la nouveauté à d'autres personnes que le barbare. Le barbare est là et il est seul, il voit des gens passer, ils sont dans le train, dans le RER de la ligne Versailles, et donc chacun est emmuré dans son propre temps, dans les wagons, et personne ne lui fait signe, en sorte que s'il y a ici une reprise du chiffonnier, c'est un chiffonnier qui ne parvient pas à communiquer le fruit de sa cueillette. Deuxième chose, l'image finale, je demeure accroupi sur mon tertre adossé aux ruines de Paris. On a ici ce que Bakhtin appellerait un chronotope, c'est-à-dire une image qui conjoint, qui imbrique l'un dans l'autre, le temps et l'espace. L'espace est donc bien défini, c'est un talus avec un train qui passe devant, qui ne s'arrête pas, et une situation d'incommunicabilité. Le sujet qui voit le train passer ne peut donc pas, ne reçoit aucun signe des passagers. Le temps, c'est évidemment le temps de la ruine. C'est Paris en train de multiplier jour après jour les ruines, et je dirais que le nouveau commerce a besoin de cela, a besoin de tout transformer au jour le jour en ruine pour imposer la vente de la nouveauté. Donc c'est un chronotope ici, à nouveau déceptif, au moins mélancolique. Mais voilà. Je m'arrêterai là pour Reda en disant, en mettant en évidence trois choses que, en rappelant trois choses que j'ai mises en évidence. D'une part, le mode du trajet, la marche à travers Paris. Deuxièmement, la critique du rite de la société de consommation. Troisièmement, le passage du train. Et les trois auteurs suivants, qui eux sont strictement contemporains, et leur recueil surtout, je les ai choisis justement parce que chacun d'eux reprend, si vous voulez, un de ces éléments du texte de Reda. Donc à la fois le trajet et la marche, deuxièmement le marché pour Michel Houellebecq, troisièmement le train pour Étienne Faure. Donc Jacques Roubaud, et là je vais vous parler de son dernier recueil qui s'appelle « Ode à la ligne 29 des autobus parisiens ». C'est peu fréquent comme titre de recueil de poésie, bien entendu. On est très loin des châtiments, des contemplations, c'est pas vraiment ça. Et là, vous avez là un recueil où je veux dire que Roubaud se montre fidèle à sa manière, hein, à la manière de l'auteur de La vieillesse d'Alexandre, livre qu'il a consacré au devenir de l'alexandrin en régime de contemporanéité. Fidèle à sa manière, mais adapté tout de même, sa manière, il s'est adapté à l'urbanité de celui qu'il appelle lui-même un busonaute. Busonaute fait sur internaute ou sur cosmonaute, le busonaute étant donc celui qui prend bus en permanence, c'est-à-dire le sujet le sujet lyrique, si je voulais, pour le dire en allemand. Même si donc il est fidèle à sa manière, la poétique de l'Ode à la ligne 29 des autobus parisiens va convertir les contraintes de la marche, et c'est en cela que vraiment, là, il y a une différence par rapport à Reda, ici, le poème va transformer les contraintes de l'itinéraire en contraintes d'écriture. Et tout Roubaud va être là. Vous allez revoir ici son érudition de grand rhétoriqueur, sa précision d'artisan, sa tendresse, il n'arrête pas d'avoir de la tendresse pour l'art d'écrire des vers, comme il dit, sa passion immodérée pour les chiffres, déjà le titre, hein, autobus 29, c'est pas n'importe lequel, et aussi son côté ouripo, hein, son ouripisme d'enfant joueur, qui s'impose des règles, c'est la loi de l'ouripo, hein, bien sûr, des contraintes afin de gagner une sorte de liberté d'écriture par la contrainte, mais entendons bien que, et vous allez le voir par extrait que je vais vous montrer, chez Roubaud, la contrainte est toujours posée, respectée parfois, mais régulièrement, il éprouve l'impérieux besoin d'en contredire et d'en changer, et de vous le dire en plus. C'est automatique. Alors sa poésie ici va assumer le divorce entre la banalité de son objet, un voyage en bus, et en plus un voyage quotidien qu'il fait depuis longtemps, un voyage en bus avec sa ligne de bus, et d'autre part, l'élévation lyrique que le genre de l'Ode suppose et possède par tradition. Et l'Ode à la ligne 29 est bel et bien une ode. Elle comporte donc 6 chants de 6 strophes asymétriques, hormis le dernier chant, qui n'en a que 5. Pourquoi ? Parce que c'est ainsi. Vous êtes chez Roubaud, il fait ce qu'il veut. Donc il impose la règle, il l'a contredit très vite. Les vers sont des alexandrins, mais entendons-nous bien, des alexandrins typographiquement classiques, donc classiques à l'œil. Ça veut dire, ça par exemple, que la césure va être marquée par 5 espaces marqués à l'ordinateur. Et donc vous aurez un blanc au milieu des vers. Si, pour arriver à faire cette césure, il faut couper un mot en deux, ce n'est pas un problème, on va couper un mot en deux. Là, vous avez une part d'invention et de jeu. Les diérèses, c'est ce qui se passe quand on dissocie une diphtongue, hein, quand on dissocie deux sons qui dans la langue sont d'habitude unis. Les diérèses, ou à l'inverse les synérèses, celles où on amasse deux sons ensemble, elles vont être là, soulignées, signalées, de même que les élisions orales, deux muets par exemple à la fin. Si le travail sur le poème et le langage est évidemment de nature orale en partie, il est aussi visuel. Hein, par exemple, les rimes vont être des rimes visuelles, comme les aimait Rimbaud. Mais Rimbaud essayait souvent d'avoir à la fois une rime visuelle et orale. Ici, Roubaud va prendre carrément des rimes visuelles, ça ne le dérangera pas, même s'il faut parfois pour cela apporter des retouches à la langue. C'est pourquoi, par exemple, il va, pour que le mot rime avec le mot asthme, asthme qui s'écrit A-S-T-H-M-E, comme vous le savez, pour que le mot sarcasme rime avec le mot asthme, Roubaud va écrire sarcasme, S-A-R-C-A-S-T-H-M-E. Idem pour people, magazine people va rimer avec périple, à condition d'écrire people, people, P-I-P-L-E. Et donc à chaque fois, donc, vous allez avoir comme ça la rime visuelle qui va s'imposer. Et bon, disons qu'une ode aussi, ça doit chanter. Alors le chant vaut bien ici de temps en temps aussi une faute d'orthographe volontaire, et le bus vaut bien un tel honneur. Le trait scriptural le plus dynamique, cependant, va toucher la conduite des strophes elles-mêmes. Au lieu d'avoir une espèce de continuité de ton, ce que vous auriez dans une ode, la ode à la joie de Schiller, par exemple, ou bien Not Regression Hume de Keats, ben, vous avez là une grande solennité de ton qui va être sur toute l'ode. Ici, au contraire, les odes, l'ode va accumuler des parenthèses. En d'autres termes, au bout de quelques vers, vous avez une parenthèse qui survient, qui va être elle-même coupée par une deuxième parenthèse, laquelle est bientôt squattée par une troisième, puis le bussonaute reprend le fil de son discours premier. Après ça, il va cependant à nouveau ouvrir une quatrième parenthèse, qui n'a pas nécessairement de rapport avec les autres sur le plan de ce qui est raconté. Et puis peu à peu, il peut encore en ajouter une. Ça peut aller jusqu'à 9 niveaux de parenthèse dans la parenthèse au fil des textes. Et sachez bien que là, ma photocopie est en noir et blanc, mais je vais faire passer le texte tout à l'heure si vous voulez. Chez Roubaud, les différents degrés de parenthésisation, si je puis dire, sont marqués par des couleurs différentes. Et donc, vous avez 7 ou 8 couleurs, le noir, le rouge, le bleu, le vert, le violet, le marron, le gris, le rose et le cyan. Et donc là, vous avez une sorte de strophe gigogne. Hein. La strophe, vous avez comme les poupées russes, les poupées gigognes, où vous avez toujours une poupée en dessous d'une poupée. Là, vous en enlevez une, c'est encore la même qui apparaît. C'est à peu près comme ça que fonctionnent les strophes de God. Alors, on va lire la strophe 18e. Et vous voyez, ce sont des parties du trajet qui sont à chaque fois racontées dans les strophes. Strophe 18e, de l'arrêt Bastille au marché à l'arrêt Bastille. Supposons maintenant, césure, donc 5 espaces, supposons maintenant qu'une température de 33 degrés règne autour des voitures. Ceci pour éviter la liaison qui ne supporte pas. Qu'avons-nous constaté ? Voyons, vous savez bien, vous ne savez pas, mais vous ne savez rien. Le boulevard Bourdon est, c'est obligatoire, absolument désert. Nous connaissons l'histoire du fameux incipit de Bouvard et Pécuchet, remanié souvent afin qu'il soit parfait. Vous avez donc parfait écrit ici avec FET pour rimer avec Pécuchet. Et ceci fait allusion à la première phrase de Bouvard et Pécuchet qui est celle-ci. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Donc, allusion ici à Flaubert. Vous voyez que je viens d'aller, en parenthèse, à la fin du recueil pour venir la phrase de Flaubert. Ça signifie que vous avez des notes, comme dans les travaux que vous faites à l'université, des notes qui renvoient à la fin avec des notes de bas de page. Personne dans les rues, personne sur la place, le soleil dans les cieux, rampe, lourde limace. Or, s'il en est ainsi, le lieu nous appartient, le silence est profond, il ne se passe rien. S'il ne se passe que puic, pourquoi prendre la peine de continuer? Non, ici c'est souligné, donc il faut dire pourquoi prendre la peine de continuer autant. Donc c'est il faut dire nouer en une seule syllabe pour avoir le compte juste de Préalexandrin. Marcher jusqu'à la Seine, nous promener un livre en si un, là il faut dire en si un et non pas ancien, en si un sous le bras, le fleuve qui s'écoule et qui ne tarit pas, ça c'est du Apollinaire qu'on retrouve en dessous. Suivons jusqu'au pont mis rabot itinéraire que nous recommanda Guillaume Apollinaire. Le 29 dans tout ça, c'est vrai, je m'égarais. Bon, il s'égare à la fois, je veux dire, sur le plan de la pensée de la ville, il vient de penser à d'autres endroits que ne fait pas l'itinéraire, il vient de s'égarer dans son poème aussi par cette espèce de digression littéraire et culturelle qui a ouvert le texte sur Flaubert et sur Apollinaire. Je retourne à Bastille où nous arrivons, mais planté sur le sol dur, sans y prendre racine toutefois, ça c'est en rouge par exemple, ces deux vers-là, je rêveux, si le bus se débine pendant ma rêverie, je prendrai le suivant, et mon regard parcourt, exprès, tout ça, les deux petits vers-là sont en rouge aussi, nonchalamment, tout le panorama que la vue découvre, la colonne n'a pas la majesté du Louvre, et son génie ne m'a jamais fait les yeux doux, étant amoureux de Nini Potoutou. Nini Potoutou est une allusion évidemment à Aristide Bruand, auteur de la chanson Nini Potchia. À nouveau en rouge, le vers suivant, donc le vers étant amoureux de Nini Potoutou, je vois la marina du port de l'Arsenal avec ses pseudo-yachts, pour yachts, pataugeant dans vos salles, je vois Richard Lenoir, c'est un boulevard, mais pas Bréguet serein, pas Bréguet Sabin. Les manèges tournés, surchargés de bambins, et les amoureux sur leur auto-tamponneuse. Bon, on vient d'avoir là pour finir, c'est presque difficile à lire et à suivre tellement que c'est chargé d'interventions scripturales. On vient d'avoir cependant un petit tableau parisien sympathique, presque mignon, presque naïf. Des manèges qui tournent, des amoureux sur des auto-tamponneuses, des enfants, il y a là donc une sorte d'atmosphère joyeuse. Là, le texte va soudain rompre cela, et revenir vraiment dans l'itinéraire, et revenir à Paris. Et là, avec, en notant, oui aussi, à la manière de Reda, une absence, quelque chose qui est parti en ruine. Mais les pavés, plus de pavés, fini la gueuse, Paris n'était Paris qu'arrachant ses pavés, ça c'est Aragon. Que deviens-tu, Paris, de tes pavés privés ? Un peu déboussolé par cette évocation du passé révolu des révolutions, j'ai du mal à chanter le présent ordinaire, les badauds, l'opéra, le ciel, ses congénères. En rouge, les nuages marchent mano, plus ouateux que jamais, le métro grondoyant qui vient de la râper, on n'entend pas au moins barrir une éléphante, José María Heredia, poète parnassien, mais des marmots piailleurs, la rose d'une infante, n'honore pas les mains d'une rosière en fleurs, tout est si très banal que ça me fend le cœur. Sauveur maintenant Pagnol, ainsi disait Rému, dans la partie de cartes célèbre de Marius, et là en bleu, et là vous allez voir le texte qui revient sur lui-même, on ne fait pas plus tarte que cette fin de strophe aux pénibles effets. C'est assez du chant 3, il doit finir, c'est fait. Et donc, la fin termine en queue de poisson, si je puis dire. Mais néanmoins, le texte vous a donné, d'une part, une lecture culturaliste de Paris, avec Flaubert, Aristide Bruand, Apollinaire cité au début. Vous avez ensuite cette image, ce tableau naïf, sympathique des manèges qui tournent, et puis nos regrets, et aussi une espèce de déception par rapport au fait que nous n'avons plus affaire là, au Paris des révolutions. Un Paris qui a été navire révolutionnaire, à une époque, navire insurrectionnelle par excellence, ici n'a plus de pavé, le signe étant que la révolution est partie. Vous voyez comment ça marche, je vous dis, c'est pratiquement un effort de lecture ardu pour lire ça, surtout à voix haute. Je vais passer peut-être le recueil, comme ça on verra un peu l'étendue du désastre. Et je veux dire cependant que, enfin, en tout cas, pour moi c'est comme ça, que chez nombre d'écrivains, je dirais même chez la plupart des écrivains, s'il y avait autant, je vais dire, de technicité dans l'écriture, je dirais que moi je me sentirais, disons, très invité à partir, quoi. Je n'ai pas vraiment envie de me transformer en vérificateur d'écrou systématiquement, mais il y a là cependant quelque chose chez Roubaud qui fait que je suis un lecteur de Roubaud, même si ce n'est pas mon poète de chevet, mais s'il publie quelque chose, je vais aller voir car ça m'intéresse. Or pourquoi ? Ben, je veux dire, la première chose, c'est que la virtuosité du texte est ici chez lui en permanence, irriguée par une abondance d'humeur. Si vous lisez le recueil au complet, vous allez voir, ça va de la joie d'approcher d'une station près de laquelle se vend d'excellents sorbets. Et donc là, il va descendre du bus, aller se précipiter chez le gars qui vend des glaces, il va manger la glace, il va attendre le bus suivant, il va repartir. Donc là, vous avez un usage du bus qui est un usage libre, ce n'est pas un usage non plus utilitariste simplement. À d'autres moments, vous allez voir tout à fait heureux parce qu'à tel endroit, d'habitude à cette heure-là, peut monter une voyageuse qu'il trouve, disons, très séduisante et donc il attend, il espère que cette voyageuse va intervenir. À d'autres moments, vous êtes dans des sorties érudites, mais alors là, très sophistiquées sur le passé parisien et le passé de la littérature. Donc, c'est si vous êtes de temps en temps érudit, c'est sophistiqué, mais en même temps, ça peste, ça grogne, ça râle, ça désire, ça vit. Il y en a une série d'humeurs, je veux dire, qui est d'autant plus remarquable qu'elle sert à montrer que la ville, en fait, si on y regarde bien, ça change tout le temps. Même si vous êtes dans le même trajet, à moins que vous ne soyez pris de torpeur, le trajet est toujours changeant et il n'y a rien de plus. C'était déjà le poème de le vers de Baudelaire, le cœur d'une ville, non, la ville change plus vite que le cœur d'un mortel. Donc la ville est hyper changeante ici. Et chez Rouveau, c'est accepté comme quelque chose de vital et de bien. Deuxième chose aussi, quand vous lisez Rouveau, et notamment des textes pareils, c'est qu'il y a cette auto-réflexivité amusée d'elle-même, hein, ce retour du texte sur lui-même qui n'est jamais un retour prétentieux. C'est un retour du genre, là, comme je vous ai lu, on ne fait pas plus tard que cette fin de strophe aux pénibles effets. Donc c'est là une sorte de retour amusé sur son art. Et c'est avec ça aussi qu'il me convoque d'ailleurs très librement et de façon très décontractée des dizaines et des dizaines d'écrivains, se désignant lui-même comme le Rouveau, comme si c'était un animal d'une nouvelle sorte, le Rouveau, qui est un animal qui finalement hante la ville et qui va y chercher de la nouveauté. La troisième chose est la plus importante, la troisième raison pour laquelle je trouve qu'il y a là justement autre chose que de la virtuosité, c'est que les choix même poétiques de Rouveau, comme en fait à mes yeux, remarquablement à l'expérience du voyage en bus. Le jeu, par exemple, qui fait de la rime une sorte de chose auditive et visuelle, traduit, à mon avis, vraiment très bien le constant passage de la vue à l'ouïe qui nous prend quand nous sommes dans un bus. Nous sommes comme ça en tant que voyageurs de bus, toujours en train à la fois de regarder et d'entendre, mais avec une attention qui peut se déporter d'un sens vers l'autre en permanence, et de temps en temps ça coïncide, mais pas tout le temps, au contraire. La loi générale est justement cette oscillation du sens de l'ouïe au sens de la vue. Et donc la rime elle-même ici traduit, je crois, cette itération sensitive. Deuxièmement, il y a le mixte rythmique qui est créé par les alexandrins, qui, lui, est un rythme très curieux avec ses césures qui sont surimposées. En plus, il y a les rimes aussi qui jouent un rôle rythmique non négligeable. Ce que vous avez là, c'est à la fois la continuité de l'alexandrin, et certains peuvent se lire parfois vraiment de façon continue, même s'il y a l'espace, et à d'autres moments, vous êtes vraiment obligé d'arrêter, parce qu'il y a un hiatus, parce que vraiment la coupure est trop sidérante, parce que vous êtes au milieu d'un mot, et vous ne savez pas comment continuer la même chose. Vous avez donc un mélange ici de continuité et de discontinuité de la parole, qui aussi correspond assez bien, je crois, au voyage du bus. Et enfin, la gigogne, la poupée gigogne des parenthèses, là, des apartés, des digressions aussi. Je crois que ça épouse remarquablement bien aussi, ça rend très bien la rêverie mémorielle qui prend n'importe quel bussonaute qui se laisse aller au moteur. Hein. Ici, tenez, j'ai fait un pastiche d'une phrase de Jean-Jacques Rousseau, un pastiche qui donne ceci. « Le rond et le ronron du moteur, son bruit continu mais renflé par intervalles frappant sans relâche son oreille et ses sens, supplient alors au mouvement interne que la pensée éteinte en lui, le bus sonore, et suffisent à lui faire plaisir à lui faire sentir avec plaisir son existence, ainsi que la présence de Paris, sans prendre la peine d'y penser. » C'est exactement ce que Rousseau écrit quand il est au milieu du lac de Brienne et qu'il se laisse dériver dans sa barque. Il a une sorte de mouvement comme ça où soudain la pensée s'évanouit et il se laisse aller à la rêverie. Et je crois que c'est ce qui nous arrive très souvent en bus. Nous sommes en dehors en fait de notre situation vraiment physique et nous nous laissons aller à des rêveries diverses. Certains ont des ressentiments s'ils sont malheureux, mais il ne faut pas se laisser aller aux ressentiments. Vous savez, toujours combattre le ressentiment par la joie. Voilà pour Rouveau. Michel Houellebecq, à présent, par rapport à l'ode de Rouveau, je vais dire que sa poésie se caractérise plutôt par sa prédilection pour les vers de Mirmiton, hein, des alexandrins de Mirmiton, ou des octomètres de Mirmiton, par des rimes volontairement nunuches, par une énonciation que je qualifierais d'obromovienne. Obromov, souvenez-vous, est ce personnage du roman d'Ivan Gontcharov, qui est un personnage qui ne fait rien, qui est incapable de faire quoi que ce soit, qui est vraiment dans une inactivité militante. La poésie de Houellebecq a aussi souvent un ton geignard. Sur le plan de l'érotisme, c'est la débandade permanente, et je choisis mes mots. Et je veux dire que tout cela finit par donner des strophes comme celle-ci. Je me réveille à Montparnasse, tout près d'un sauna naturiste. Le monde entier reprend sa place. Je me sens bizarrement triste. Là, j'aurais envie de dire, qu'est-ce que je fous là à lire ce texte insignifiant? Bon, a priori, c'est l'effet que ça crée au premier regard. Et pourtant, je le jure, d'une part, je dirais que c'est assez difficile de faire des vers comme ça, ça n'a l'air de rien, mais on est tellement habitué à sublimer en poésie que si vous mettez à écrire des vers, vous allez essayer d'écrire... c'est mon cas, je suis un très mauvais poète, ça m'arrive d'essayer d'écrire de la poésie, je suis nul, mais une des raisons pour lesquelles je suis nul, c'est que si je me mets à écrire de la poésie, je vais avoir la tentation du sublime. Et donc, il n'y a rien de tel que pour faire de la mauvaise poésie. Et donc, par contre, arriver à cette espèce d'assèchement et d'aseptisation même de la prose et en faire néanmoins de la poésie, il faut vraiment un certain travail. Et deuxièmement, je dirais qu'il y a une portée critique, en tout cas, dans cette poésie, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer à travers deux textes, où là, donc, c'est le deuxième thème qui était déjà chez Reda, mais transformé, évidemment, remu à l'aune de la situation contemporaine, le thème du marché. Et dans la poésie de Houellebecq, ce qui règne, là, c'est un marché qui est, qui ne débouche sûrement plus, comme chez Reda, sur la possibilité d'aller acheter autrement. Tout est saturé par la même façon d'organiser le social. En lisant le premier texte, je traverse la ville dont je n'attends plus rien, au milieu d'êtres humains toujours renouvelés. Je le connais par cœur, ce métro aérien, il s'écoule des jours sans que je puisse parler. Oh, ces après-midi, revenant du chômage, repensant au foyer, méditation morose, on a beau ne pas vivre, on prend quand même de l'âge, et rien ne change à rien, ni l'été, ni les choses. Au bout de quelques mois, on passe enfin de droit, et l'automne revient, lent comme une gangrène. L'argent devient la seule idée, la seule loi. On est vraiment tout seul, et on traîne, et on traîne. Les autres continuent leur danse existentielle. Vous êtes protégés par un mur transparent. L'hiver est revenu. Leur vie semble réelle. Peut-être quelque part, l'avenir vous attend. Alors là, le premier vers est en soi déjà intéressant. Je traverse la ville dont je n'attends plus rien. C'est un énoncé anti-romantique et même anti-moderne par excellence. L'incipit type, en effet, le début de texte typique du romantique par rapport à la ville, le début du texte typique du moderne par rapport à la ville, c'est, je parle du 19e siècle, c'est un jeune homme arrive en ville. Les jeunes femmes, ce sera pour plus tard, au 19e, n'en sont pas là. Donc, un jeune homme arrive en ville, et bien entendu, ce jeune homme arrive en ville, comme Rastignac dans le Père Goriot, plein d'idéal, il va se confronter à la ville, et en rabattre un peu de son idéal, mais devoir s'adapter pour faire quelque chose. Mais au moins, ce jeune homme qui arrive en ville attend quelque chose de la ville. Il attend même tout de la ville quand il arrive. C'est une des bases de son idéal. Ici donc, dans le texte de Houellebecq, vous avez la contradiction absolue de cet énoncé-là avec une ville, une Paris, qui n'a plus rien à offrir. Or, cette offre vide de la ville est directement corrélée à la représentation du chômage. Je dirais plutôt d'un chômage, car il faut bien voir qu'il n'est pas seulement une question de statut économique. Ce n'est pas le chômage comme au Moyen-Âge ou bien le chômage rural de Valjean dans Les Misérables, par exemple. Ici, le texte va vous dire que ce chômage est lié au métro, qui est connu par cœur, à l'incommunication, on ne peut plus parler, à l'organisation du temps, en raison de la journée, au trajet effectué en ville, revenant du chômage, à l'occupation des jours et au mouvement inutile, on traîne, au corps qui va mal, et à la solitude dans la foule, au milieu d'êtres humains toujours renouvelés. En clair, entre le chômage et Paris, vous avez ici une bijection, une implication réciproque. La ville est le lieu du chômage, le chômage a trouvé une ville, Paris. Le mur transparent qui le sépare des autres est aussi quelque chose de remarquable pour indiquer la fracture, car même si la ville séparée, à l'intérieur de la ville, il y a d'autres qui, eux, sont dans une danse existentielle et donc qui ont, disons, une activité, un bonheur, qui ont une façon de pouvoir vivre. Le mur transparent qui le sépare est donc l'indice ici d'une fausse continuité sociale. Il n'y a apparemment pas de différence entre le chômeur et ceux qui dansent, mais en fait, il y a une incompatibilité. Il y a bien un mur transparent, une fenêtre, quelque chose qui empêche en fait cette mixité sociale. Remarquez bien aussi que parlant du trajet, quand il dit « revenant du chômage, repensant au foyer, méditation morose », c'est un autre lieu commun de la poésie romantique et moderne qui est ici contredit avec force. Ce lieu commun est un lieu commun que j'avais bien identifié, tenez, Hans Robert Jauss dans un texte assez ancien. Jauss avait été chercher ça dans la poésie du milieu du 19e siècle. Et ce lieu commun, c'est le retour au foyer. Il y avait un tas de poèmes comme ça qui rêvent d'un retour au foyer. Et ici, repensant au foyer, méditation morose, le chômeur n'a plus de lieu d'habitation en ville. La nature elle-même et la relation de la ville avec la nature est désormais présentée comme maladive, ce qu'indique le mot gangrène. Quant au gangage, il a lui-même, je veux dire, rendu les armes. Le chômeur est tenu ici de parler dans le gangage même, de l'économie. C'est-à-dire qu'il cite lui-même, le langage qu'il le désigne et qui le condamne à avoir encore moins que ce qu'il a. C'est le premier vers de la troisième strophe. Au bout de quelques mois, on passe enfin de droit. Vous avez là une expression toute connue, une expression bien connue. Un chômeur en fin de droit, donc c'est un chômeur qui n'a plus droit donc, aux allocations de chômage. Et remarquez bien que dans ce cas-là, le texte passe au « on », donc le passage au fin de droit suppose la suppression carrément du sujet et son remplacement par le « on » anonyme, le pronom indéfini. Alors tout ça donne évidemment un texte profondément triste, accablé même, où perce un malheur très fort, mais ce qui est d'étonnant et d'intéressant, c'est que si j'ai bien dit qu'il y avait ici toute une série de ruptures avec des énoncés romantiques ou modernes, néanmoins, le vers choisi est le vers romantique par excellence, à savoir alexandrin, et sont des alexandrins rimés, et pire que ça, ce poème est une des formes poétiques remises à l'honneur par le romantisme et que Baudelaire a utilisé dans les fleurs du mal. Ce texte-là, c'est un pantoum, c'est-à-dire 4-4-1 avec des rimes croisées. Les deux premiers vers donnent une situation générale et les deux vers suivants en donnent l'explication. C'est comme ça que fonctionne ce texte-là. Vous avez là donc une forme culturelle qui est maintenue, une forme littéraire noble qui est maintenue en arrière-fond du malheur. De deux choses une, où vous êtes un peu optimiste, ça c'est l'équivocité du texte, et il nous laisse là sur cette note équivoque, ce qui est bien normal pour la littérature, ou bien vous êtes vraiment atteint et vous êtes dans le pessimisme absolu, vous dites, bon, cela signifie qu'il n'y a plus de romantisme possible aujourd'hui, si ce n'est un peu un romantisme du malheur accablé et aseptisé, le malheur pour tous, en capsule si vous voulez, ou bien vous êtes un peu plus pessimiste et vous dites, il y a encore au moins une forme littéraire qui est capable d'exprimer le malheur et au moins cette forme instaure un ordre, donc tout n'est peut-être pas perdu. C'est, je crois, écartelé entre les deux. Deuxième texte, le texte Hypermarché novembre. Tenez, monsieur. Monsieur. Le texte que je vais lire là. Donc, le deuxième texte est intitulé Hypermarché novembre. Et est un texte aussi équivoque et très ambigu. C'est là que vous voyez qu'il y a un travail très fort, finalement, en fond de texte chez Houellebecq. D'abord, j'ai trébuché dans un congélateur. Je me suis mis à pleurer et j'avais un peu peur. Quelqu'un a grommelé que je cassais l'ambiance. Pour avoir l'air normal, j'ai repris mon avance. Des banlieusards sapés et au regard brutal se croisaient lentement près des eaux minérales. Une rumeur de cirque et de demi-débauche montait des rayonnages. ma démarche était gauche. Je me suis écroué au rayon des fromages. Il y avait deux vieilles dames qui portaient des sardines. La première se retourne et dit à sa voisine « C'est bien triste quand même, un garçon de cet âge. » Et puis j'ai vu des pieds circonspects et très larges. Il y avait un vendeur qui prenait des mesures. Beaucoup semblaient surpris par mes nouvelles chaussures. Pour la dernière fois, j'étais un peu en marge. Bon. L'hypermarché en France est une nouveauté à la fin du XXe siècle. Donc ici, l'hypermarché est directement associé à novembre, qui n'est pas le mois le plus rempli d'espoir de l'année, comme vous le savez. C'est le mois des morts, en plus. Donc il y a là, dès le début, des connotations, disons, sombres qui vont avec le mot hypermarché. Et ce lieu, qui normalement est le lieu de la fête consumériste, ce qu'indiquent d'ailleurs des mots du texte, hein, les banlieusards sont sapés, comme pour une fête. Il y a une rumeur de cirque, donc il y a un spectacle, il y a une demi-débauche, tout va bien, on est dans une sorte de fête, mais c'est une fête noire, bien entendu, que le texte va décrire. Notez bien à nouveau que hypermarché équivaut ici à Paris, c'est la même chose. La preuve, c'est le personnel du poème. Vous avez un jeune homme, il n'arrive pas en ville, il y est déjà. Il y est même dans l'institution dorénavant qui a valeur de métaphore de la ville, l'hypermarché. Donc, un garçon de cet âge, c'est un jeune homme. Vous avez un témoin anonyme, quelqu'un à Grommery, typique de la ville. Vous avez une banlieue, puisqu'il y a des banlieusards. Nous sommes toujours bien en ville. Vous avez un spectacle, une rumeur de cirque. Vous avez du sexe, nous sommes en ville. Rappelez-vous, le premier fondateur d'une ville, c'est Caïn. Et Caïn, pour fonder sa ville, que fait-il? Il fait un enfant à sa femme et il appelle la ville du nom de son fils, Enoch. Donc, il y a du sexe. Il y a une petite pyramide des âges. Il y a le garçon en bas âge, il y a les vieilles. Il y a un marché et un marchand, hypermarché et un vendeur. Le tout avec la mise en vente d'objets manufacturés, un congélateur, par exemple, du fromage. Et ensuite, il y a un mode de socialisation obligatoire, donc, qui est la fête. Tout ça indique que cet hypermarché est donc une ville. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce texte croise en fait deux récits de l'événement qui est raconté. Et à première lecture, on ne les voit pas. C'est peut-être ça qui fait rire monsieur d'ailleurs. C'est que le premier récit, si vous lisez à tête reposée, vous dites donc c'est le récit d'un marginal, quelqu'un qui aurait bien aimé l'être. Hein. Pour la dernière fois, j'étais un peu en marge. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ce marginal, en fait? Et pourquoi est-il marginal? Il y a moyen de lire le texte en se disant, bon, d'abord, il trébuche, donc il se fait remarquer, ce n'est peut-être pas une bonne idée pour lui. Et la preuve, c'est qu'il pleure, il se met à pleurer, il a peur. Ensuite, quelqu'un dit qu'il casse l'ambiance, donc il est à nouveau en train de se faire remarquer, et il essaye d'avoir l'air normal. Donc, il essaye de dissimuler. Pour avoir l'air normal, j'ai repris mon avance. Il vous dit ensuite que sa démarche est gauche, qu'il s'écroule. Donc sa démarche est gauche, ça veut dire qu'il marche mal, il s'écroule, ce qui est normal quand on marche mal. Les dames qui portent des sardines, ça peut être ou bien des vieilles qui ont acheté des sardines, mais ça peut être aussi des dames qui portent des sardines, c'est-à-dire des galons. Des galons, des insignes d'une fonction.
Donc ça peut être... Sardines, des insignes d'une fonction.
Oui, des galons, comme pour un caporal.
Ce sont
des dames dans un magasin et elles peuvent être, si vous voulez, les agents de sécurité qui ont comme ça des choses.
Excusez-moi de vous couper.
Ça va. Vous avez ensuite un vendeur qui prend des mesures et puis les gens sont surpris de ces nouvelles chaussures. Je traduis, le récit en question est en train de vous raconter qu'en fait, il y a quelqu'un qui a essayé de voler des chaussures. Il les a prises, elles ne sont pas assez à sa taille. C'est pour ça qu'il est tombé, c'est pour ça qu'il s'est fait remarquer, c'est pour ça que les dames disent c'est bien triste quand même, un garçon de cet âge qui essaye de voler quelque chose. C'est pour ça que le vendeur prend des mesures afin de bien vérifier que ces chaussures-là, il ne peut pas les avoir, elles sont trop grandes pour lui. Donc, premier récit, vous avez là le dernier marginal, la dernière fois qu'on peut être marginal, c'est en voguant dans un hypermarché. Vous n'êtes plus Enjolras en train de faire la révolution, vous n'êtes plus Goldfinger ou bien je ne sais quel héros du mal dans l'histoire, vous êtes quelqu'un qui essaye de voler des chaussures dans un hypermarché, dernier marginal possible. Deuxième lecture, tout aussi valable, et donc tout aussi lisible, tout aussi, défendable, et le texte est fait pour que les deux soient compossibles, c'est ça qui est intéressant. Vous avez donc la réduction d'une ville réduite donc à un marché, un hypermarché. Vous n'avez donc plus aucune des définitions traditionnelles de la ville. La définition traditionnelle vous dit qu'une ville, c'est une église et un marché. Ou bien une église, une forteresse et un marché. Ou bien une église, une forteresse, un marché et un passage, un guide. Ici, uniquement, il reste l'hypermarché. Alors là, vous êtes en novembre, c'est le mois des morts. Vous êtes dans un lieu où il y a un congélateur. Regardez bien le texte. Il ne dit pas « D'abord, j'ai trébuché sur un congélateur ». Il dit « J'ai trébuché dans un congélateur ». En clair, donc, le congélateur peut être lui-même le supermarché. On est en novembre, il fait froid, c'est le mois des morts. Le congélateur, il est dedans. Il a un peu peur et il pleure, il y a de quoi. Il y a des banlieusards sapés, comme si on venait, évidemment, pour une fête qui est une fête de mort. Cette fois-ci, une fête du froid. Il s'écroule au rayon des fromages. Les vieilles dames disent « C'est bien triste, un garçon de cet âge, comme s'il était mort. » Le vendeur prend ses mesures comme un croque-mort prend les mesures pour faire un cercueil. Et le dernier vers vous dit « Pour la dernière fois, j'étais un peu en marge. » Autrement dit, ce qu'on vous raconte là, c'est le passage de quelqu'un qui était vivant à quelqu'un qui vient de mourir et qui est donc, en fait, dans la nouvelle morgue des temps contemporains. Donc, la civilisation contemporaine est une morgue du froid. Donc, là, la critique de la société consumériste contemporaine est, disons, elle est passée souvent de l'hypermarché, non plus du simple marché, l'hypermarché étant là le signe du capitalisme grandiose, oligopolistique, dirait-on, donc qui comprend tous les pôles, hein, toutes les formes de vente, et qui est réuni au même endroit. Je peux encore parler du dernier texte, ça va? Oui. Ça fait 40 minutes au moins, je parle déjà. Ok. Dernier texte, un recueil qui vient à peine de sortir, et sorti à la fin de l'année passée, très bon recueil d'Étienne Faure, qui s'appelle « Navi bon train », paroles de gare. Prose de gare. Alors, c'est donc tout un recueil qui porte sur une gare, et on devine que c'est une des grandes gares parisiennes. Il y a une grande horloge, il y a au moins 25 quais, et il y a des trains de banlieue, et aussi des trains qui viennent de beaucoup plus loin. C'est une gare qui va être observée de l'intérieur et observée par un observateur attentif, tant au train qu'à la vie de la gare, tant à l'espace qu'à la multitude des temps, tant à la matière et aux usages sociaux qu'aux passagers eux-mêmes, surtout même aux passagers, dirais-je. Étienne Faure pratique ici une sorte d'anthropologie qualitative, si vous voulez. Il regarde vraiment chaque sorte de passager, essayant d'aller rechercher la qualité même du passager. Et de lui inventer pratiquement une sorte d'histoire. Alors, ce qui est remarquable pour moi, c'est que j'ai les oreilles bassinées depuis un certain temps par cette idée que la gare est un non-lieu. Ça vient, je crois, de Marc Auger. Je pense qu'Auger, sa pensée est plus complexe que ça, mais j'entends souvent des gens dire ça. Donc, c'est un non-lieu, c'est un lieu où on ne fait que passer, on n'habite pas, c'est un lieu sans histoire, qui n'a pas de sens, etc. Pour moi, une gare, ça a déjà un sens dans la mesure où c'est une gare. C'est-à-dire que ça renvoie à un lieu qui a, disons, qui a beaucoup de sens et qui est aussi marqué dans l'histoire de l'humanité. Enfin, la gare, c'est très proche de nous comme invention. Et puis, toutes les gares du monde ont quelque chose en commun, je dirais, hein, plus que l'arrivée des trains et leur redépart. Donc, il y a là quelque chose, je veux dire, qui me semble faux quand on dit que c'est un non-lieu. Et puis, dans les gares, je pense qu'on rencontre beaucoup de gens et forcément qu'il y a de la vie tout le temps. Et ici, chez Faure, ma foi, là, oui, mais le paquet là-dessus, la gare devient ici quelque chose de lisible, au moins sur les quatre grandes dimensions d'expérience humaine. Donc, c'est lisible sur le plan du rapport à la nature, hein, le rapport de l'être humain à la nature. Donc, la gare ici est une métonymie de l'existence. Le passage en gare, c'est la métonymie de la vie qui passe. C'est lisible sur le plan du social, sur le plan de l'anthropos. C'est-à-dire, dans ce cas-là, la gare devient une synecdoque de la vie sociale. En gare, vous avez une mixité sociale que vous n'avez pratiquement nulle part ailleurs dans la vie aujourd'hui. Mais cependant, vous avez encore des hiérarchies sociales maintenues. Il y a des wagons de première classe, de deuxième classe. Il n'y en a plus de troisième, mais il y en a de troisième ou dix-neuvième. La gare aussi, c'est quelque chose qui a un langage. Donc, c'est le rapport de l'être humain au langage. Toute gare a son langage. Avec non seulement le langage de la gouvernance, des usages imposés par la gare, les horaires, annonce qui est un peu partout pareil, mais les noms même des lieux changent. Vous avez aussi le langage comoré du lieu et le plurilinguisme interne et externe qui règne du fait qu'il y a des passagers de toutes les sortes. Enfin, la gare a aussi un rapport avec la dimension érotique de la vie humaine, dans la mesure où elle est par excellence un lieu de retrouvailles, un lieu d'accueil, un lieu de rendez-vous, avec même la charge érotique qui déborde sur les alentours des gares. Hein, rappelez-vous, Jacques Brel, tout près de la gare du Nord, j'ai vu les fleurs du mal. Effectivement, ça c'était à Bruxelles, à la gare du Nord, à côté de la gare du Nord, il y avait les prostituées sont là, mais à peu près toutes les gares du Nord, du monde, sont entourées, je crois, d'un milieu interlope et souvent donc de prostitution. Alors, rentrons en gare, si je puis dire, et disons le premier texte que je vous ai photocopié. Légèrement apprêtés au sortir des voitures, les passagers descendus sur le quai vont apparaître sous leur meilleur jour l'aura du voyageur. C'est bien ce que je vous disais, aller chercher la qualité de chaque passager, aller chercher l'aura, presque au sens de Walter Benjamin, hein, une espèce d'image, de personnalité symbolique qui émane, si vous voulez, du voyageur. La provenance des trains se devine à l'allure des transfuges. Pour les grandes lignes, les héros entrent en gare comme réchappés de longs périls. Le port altier, superbe, revenu de tout, et bardé de chapeaux, capes et manteaux épais. Sortirait-il du transsibérien, il n'aurait pas plus mal allure. Ces voyageurs attendus ont droit aux embrassades, quand les petits trajets, pour petits voyageurs, n'ont droit à rien, pas une ovation, aucun signe. Ceux-là arrivent dans l'anonymat des fréquences journalières. Qui va leur demander s'ils ont fait bon voyage? Ce petit tour de trois quarts d'heure, 30 minutes. Et leur dire que les effusions déchirantes à l'entrée d'une ligne de banlieue font toujours mauvais genre. Franchement, comme si le risque de perdre était plus établi pour un grand départ, l'éloignement devenant un critère en deçà duquel, courte ligne, l'émotion est un peu suspecte ou alors déplacée. Et donc là, la hiérarchie des gens se fait non pas par le statut social, mais par la longueur du trajet qu'ils ont parcouru. À ceux qui viennent donc, qui débarquent de loin, on accorde une valeur héroïque. En tout cas, le spectacle ressemble à un accueil du héros. Ils ont droit aux embrassades. Les petits trajets n'ont pas droit à cela. Et donc, c'est bien ici une lecture de chaque passager qui va avoir lieu au fur et à mesure que vous avancez dans le recueil de faux. Deuxième texte, la clarté d'une telle pâleur que tous les voyageurs ont l'air blafards, à cet instant au bord d'en finir avec tout. Là, nous sommes en hiver. Et le recueil de Faure est divisé en quatre saisons, hiver, et on voit donc ici les gens en hiver. À cet instant au bord d'en finir avec tout, cette fille, ce salaud, cette chienne de vie. Le principal texte sur la police et la sûreté des voies ferrées date du 22 mars 1942, augurait mal déjà de la suite. Mais cela ne s'arrange guère. La gare est remplie d'ordres, injonctions, mises en garde, commandements sans cesse réitérés. Éloignez-vous de la bordure, défense de monter en, ne traversez pas les, prenez garde haut, ne faites pas ci, votre attention s'il vous plaît, ne faites pas ça, assurez-vous de n'avoir rien, attention au départ. Et pourtant, c'était prévisible, cette espèce de cadre réglementaire ne contiendra jamais tous les actes qui débordent sans arrêt les limites assignées par les ordres, jamais. La preuve en serait l'inutile injonction des haut-parleurs, quand les corps, sans plus de perspective et suivant un projet mûr ou soudain, se jettent sous les voies, rejoignant par défaut des milliers d'Anna Karenina. Alors, texte très complexe que celui-là, où vous voyez donc dans un premier temps des voyageurs qui sont au bord du suicide pratiquement, et puis le passage par une séquence extrêmement dysphorique où c'est le langage même de la gouvernance ferroviaire, si je puis dire, qui est en jeu, et ce langage est fait uniquement d'impératifs et d'interdictions. Ce n'est qu'à la fin que le texte va opposer à cette gouvernance une possibilité donc de débordement, indiquant que les gens ne vont pas se laisser avoir par ce discours de la gouvernance. Et remarquez bien que quand je dis un passage dysphorique, la première note de dysphoricité est très forte, puisque le premier commandement, la première interdiction fait allusion à un texte de police sur la sûreté des voies ferrées datant du 22 mars 1942, c'est-à-dire que c'est un texte fait sous occupation, quelques mois à peine avant la rafle des Juifs, la rafle du Veldiv. Donc là, le discours des ordres de la gouvernance ferroviaire est carrément identifié à une sorte de fascisme soft. Alors, dans les deux textes, que se passe-t-il ? Ben, moi, je dirais plusieurs choses. D'abord, il y a un investissement dynamique de l'observateur. Il est là avec une disponibilité totale du regard et de l'écoute. Il est prêt à transformer donc n'importe quel personnage, n'importe quel aspect de la vie quotidienne en chose significative, en chose signifiante. À donner là un concret, si vous voulez, une concrétude sémiotique à ce qui se passe. Deuxièmement, il y a une attention soutenue également aux effets sensitifs et émotifs qui accompagnent les moindres gestes des humains. Donc, la gare est mise ici comme un véritable vivier, comme un lieu vital, et non pas comme un non-lieu. Dans les textes, moins dans ceux-ci, mais dans d'autres textes de Faure, vous allez avoir une métaphore figée qui va traverser tout le texte, et qui, elle, mime finalement très bien le sentiment du passage que le texte est en train de décrire. Troisièmement, vous allez avoir régulièrement, comme dans le deuxième texte, la mobilisation d'un interdiscours, d'un discours externe, qui est composé des mots de la gare et surtout donc des expressions impératives. Tout ce qui ordonne la vie, tout ce qui donne des ordres aux gens. Et cela va être pointé et en contrepartie, il va y avoir donc une sorte de valorisation du débordement, du fait que les gens ne vont pas se laisser avoir par ces ordres-là. C'est un débordement qui renvoie à l'infini grouillement des individus. À la fin du texte, c'est très concrète. Elle vous dit que le speaker continue à crier ces choses dans son micro, pendant qu'en fait, les gens n'en ont cure, et eux, ils se font carrément sous les voies. C'est-à-dire qu'en fait, ils entrent dans le métro. Et c'est comme ça qu'ils sont sous les voies des trains. Et en plus, il y a pour finir une dernière chose qui joue ici dans le travail de Faure, hein, un travail qui est une critique de la gouvernance ferroviaire et de la gouvernance urbaine, une sorte de louange accordée, disons, au débordement, au désordre, au grouillement des individus. Il y a deux signes qui ont ici un rôle de pivot intertextuel très intéressant et très fort. Ben, dans le premier texte, c'est ceci, sortirait-il du transsibérien, il n'aurait pas plus mal allure, et même mal allure renvoie à l'auteur de ce grand texte, que vous connaissez sûrement, l'un des plus grands recueils écrits jamais sur le chemin de fer, et le recueil de Bresse-Sandrart, la prose du transsibérien et de la petite Jeanne de France. Si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande, c'est toujours un très grand recueil, hein, ça commence comme ceci. C'est très enlevé par rapport à Faure. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence, j'avais à peine 16 ans et je ne me souviens déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance, j'étais à Moscou dans la ville des 1003 clochers de cette gare, etc., etc., etc. Donc, signe, donc, allusion au transsibérien de Sandrart, et le deuxième signe intertextuel comme ça qui fait une connexion, c'est Anna Karénine à la fin, qui, comme vous le savez, dans le roman de Tolstoï, finit par se suicider en se jetant sous les rails, je dis bien, d'un train, quoi, sur les voies. Et donc là, le travail de critique par rapport à la gouvernance urbaine, pour moi, donc, est ici incarné dans la gouvernance ferroviaire, se fait entre autres par ce raccord, par cette projection de la disponibilité de l'observateur envers les gens et les lieux, projection sur une mémoire culturelle de longue durée. Pour conclure rapidement, donc par rapport à Paris, capitale de la modernité, capitale des ambitions, des révolutions, de tous les possibles, par rapport à Paris, grande ville, par rapport à sa province, grande ville européenne, grande ville mondiale, pourquoi pas, par rapport à Paris, ville patrimoniale, ville historique, ville devenue musée aujourd'hui pour touristes, c'est à peu près ça qui est la dominante, par rapport à la Paris digne du romantisme, par rapport à Paris économonuche du genre Paris-Plage une fois par année, c'est-à-dire que vous avez ici une poésie qui contredit toutes ces représentations-là et qui pose au contraire un diagnostic très très fort sur la ville et qui, dès Reda, dit voilà, il y a quelque chose qui se passe, la ville est en train, est devenue marché. Or, chez Reda, vous aviez une critique du rituel de la société consumériste, mais il était encore possible, chez Reda, pour lui, d'avoir une action à l'intérieur même du monde marchand. Il avait acheté, non, mais acheté d'une autre façon et d'autres objets que ceux que produisait la société ou qu'imposait la société de consommation. Dans les trois textes d'aujourd'hui, Roubaud, Houellebecq et Faure, il y a toujours une portée critique très très forte. Chez Roubaud, la critique de la gouvernance urbaine, de son sérieux, de sa raison commerciale est bien là. Mais l'action, cette fois-ci, est plutôt du côté d'une réinvention ludique, tout orientée vers le plaisir individuel, vers le plaisir épicurien, réinvention qui se fait par un langage qu'il faut détourner, squatter et transformer par le jeu. Chez Houellebecq, la critique se fait très forte aussi, tant du monde du chômage que de l'hypermarché, mais le passage à l'action ici semble pratiquement impossible, semble de plus en plus difficile, sinon je dis impossible, à moins de considérer, ce qui serait légitime aussi, que le texte lui-même ici essaye de pousser à sa limite un sentiment de dysphorie pour créer une réaction chez le lecteur. Si vous voulez, pousser à la limite le sentiment d'accablement ressenti par pas mal de gens aujourd'hui. Chez Faure, la critique est beaucoup plus, je vais dire, là, positive, optimiste. Il y a une critique frontale, très directe, de la gouvernance et de ses diktats. Ce qui est ici réclamé, c'est vraiment de regarder l'attitude, si vous voulez, rénovatrice, novatrice chez Faure consiste à regarder ce qui n'a jamais été regardé comme ça d'une autre manière. Regarder une gare en prêtant soudain attention à la variété des gens, à la variété des comportements, à la variété des langages, à tout cela, en respectant, en allant vers une sorte d'acceptation du désordre. Et dans les trois cas, c'était déjà le cas chez Reda, mais dans les trois cas, il y a la réclamation d'une artialisation du regard urbain, d'une culturalisation du regard urbain. Artialisation avec art, donc, regarder la ville telle qu'elle est, en se servant de l'art, en se servant de la littérature, qui retrouve donc ici une fonction de déchiffrement. Je n'ai plus rien d'autre à vous dire.